Bonjour Rav Mordechai Chalençon, comment allez-vous aujourd'hui?
Bonjour, Baruch Hashem, vous.
Toujours bien, vous le savez. Alors aujourd'hui, on parle de la paracha de la semaine. Première question un peu naïve, Tazria Metsora, pourquoi est-ce qu'on lit toujours ces deux parachutes en même temps?
Ah, c'est une très très bonne question. En fait, il faut savoir que la paracha Tazria va nous parler de ce qu'on appelle la pureté et lorsqu'une personne n'est pas pure. Mais on ne nous donne pas la solution de quoi faire si une personne a perdu sa pureté. C'est la parashat Metsora qui va nous expliquer qu'il y a différentes façons, que ce soit la vache rose, que ce soit le mikvé, le bain rituel, etc., la préparation. Donc on ne peut pas venir dire à une personne, voilà, c'est dommage pour toi, mais c'est raté, sans lui donner une solution. Donc on vient toujours faire Tazria Metsora qui soit ensemble.
Alors, cette paracha de Tazria, elle s'ouvre sur quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne, mais qui est vraiment essentiel dans le judaïsme, c'est le commandement de la Brit Mila.
Ah oui, il y a tout d'abord le fait qu'une femme va accoucher avec tous les soucis que cela pourrait amener, le fait qu'un homme et une femme, à un certain moment, doivent se séparer un petit peu physiquement pour pouvoir se retrouver différemment, ce qu'on appelle Anida, etc., avec le mikvé qui va venir après. Et puis, oui, on a comment et à quel moment l'âme de l'enfant va réussir à s'installer par étapes, que ce soit pour un garçon ou une fille, il y a le moment de la conception. Il y a 40 jours après la conception, où on va choisir si c'est un garçon ou une fille. Il y a le moment de l'accouchement. Et puis, à un certain moment, on va devoir fixer un peu son destin, en tout cas sur certaines choses. Et ça va être fait pour une fille au moment où on lui donne son prénom en hébreu au Sefer Torah, et pour un garçon au moment de la Brit Mila. Étant donné que la Brit Mila, c'est l'alliance éternelle qu'on a eue avec Dieu, on a la chance à ce moment-là de pouvoir aider l'enfant à prendre les décisions qu'il va devoir faire en tant que juif pour perpétuer tout simplement le judaïsme à travers sa famille et ses ancêtres. Et donc le moment de la circoncision est extrêmement important, c'est pour cela que ça s'est gardé depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un moment très important. Donc il y a le fait de devoir parfaire la personne, ce qui est quand même assez intéressant parce que vous savez qu'une fois il y avait une matrone romaine qui a demandé à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est plus parfait? Est-ce que c'est la création de l'homme ou la création de Dieu? Alors, il avait compris qu'il y avait un petit piège derrière, donc il répond, la création de l'homme. Alors, il était un petit peu étonné. Donc, il dit, bah oui, regarde, si je prends du blé, je prends un gâteau, qu'est-ce qui est plus parfait? C'est le gâteau. Comment ça se fait? Parce qu'Hachem a créé le monde à ce que nous devons le parfaire. Et c'est pour cela que nous avons été créés encore avec un besoin de perfection qui doit venir. Ce qui n'est pas le cas de la femme, qui est 2.0, elle est déjà parfaite quand elle naît. Ah ouais, rien à faire, c'est comme ça.
Ça serait trop beau. Alors, dans ces deux parachutes, on parle de plaies sous forme de taches. On traduit en français toujours de la lèpre, mais en fait, ce n'est
Exact.
pas vraiment de la lèpre. Et on comprend bien d'ailleurs que ce n'est pas une maladie classique parce qu'il y a un côté surnaturel, si j'ose dire, dans cette maladie, puisque évidemment, il y a des taches qui peuvent être d'une certaine couleur, etc. Et on demande au Cohen de définir ce que vous disiez au début, c'est-à-dire si c'est pur, pas pur. Et bien entendu, souvent, ces taches, elles ont affaire au lashonara, à la médisance. C'est souvent comme ça qu'elles arrivent.
Exactement. En fait, comme vous l'avez dit, c'est appelé la lèpre, mais c'est plutôt une lèpre biblique, puisqu'elle a différentes couleurs, elle a différents endroits où elle peut toucher aussi, ça peut toucher la maison, les ustensiles, les vêtements, et seulement à la fin, si la personne n'a toujours pas compris qu'il faut arrêter de parler sur les autres, alors ça arrive sur la personne. Il faut aussi savoir que selon les actes de la personne, elle peut changer d'endroit sur le corps. Par exemple, si c'est sur le corps, c'est comme vous avez dit, c'est à cause de la médisance. Mais une personne qui est trop orgueilleuse, ça va toucher la tête. Donc, il y a différentes raisons et façons. Et la base est très simple, en fait. On a en nous différents membres, dont un qui est assez extraordinaire, c'est la langue. Et elle peut parler. Mais malheureusement, si on l'utilise pas convenablement, ça peut être la pire. Parce qu'on peut faire mal avec les bras, avec les mains, mais avec la langue, c'est encore plus grave. Et c'est pour cela qu'on doit faire extrêmement attention aux paroles que l'on va dire, comment on va les dire, pourquoi on va les dire et à qui on va les dire. Et lorsque on arrive à ce moment de la lèpre, alors on pourrait se dire que c'est catastrophique pour une personne parce que à ce moment-là, elle devait carrément sortir du campement. On devait la sortir pendant 7 jours, elle devait voir personne, elle devait être complètement isolée, devait sortir de la ville, et il fallait qu'elle fasse une réflexion sur elle-même pendant 7 jours pour que le Cohen puisse en fin de compte réussir à le sortir de là. Eh bien, il y a quand même une question très étonnante que l'on voit dans la paracha, c'est qu'il est marqué « Venatati negatzarat ». J'ai donné en cadeau au peuple juif le fait d'avoir la lèpre. C'est quoi ce cadeau-là? Alors, il y a deux réponses. La réponse la plus classique et la plus connue, c'est que lorsqu'une personne avait appris à arrêter de dire du mal sur les autres, donc elle avait fait teshuva, elle s'était repris, elle avait changé d'attitude, elle gagne en expérience. Et donc, elle va recevoir un cadeau. C'est quoi? C'est que lorsqu'elle allait casser les murs de sa maison parce qu'il y avait de la lèpre dessus, il trouvait des trésors à l'intérieur. Parce que lorsque les Kedahanim se sont sauvés d'Israël, lorsque les Juifs sont arrivés, ils ont caché certains bijoux, certains trésors dans leurs murs en pensant pouvoir revenir un jour. Et donc, les Juifs allaient les retrouver à ce moment-là parce qu'ils avaient travaillé sur eux-mêmes. Mais ça, c'est une réponse, on va dire, physique. Mais il y a une réponse qui est beaucoup plus profonde. Parce que la lèpre elle-même touchait le plus souvent, en fin de compte, c'était la personne. Donc, qu'est-ce qu'il avait à gagner à ça? Eh bien, si je vous dis qu'aujourd'hui, cette lèpre n'existe plus, vous allez me dire « heureusement ». Eh bien, en fait, non. Parce que qu'est-ce que ça montre? Qu'on n'est même plus arrivé au niveau à ce que Dieu puisse nous dire « tu sais quoi, il y a un truc à l'intérieur de toi qui n'est pas au top ». On est tellement pas très bien extérieur et intérieur que ce petit détail qui manque, qui était frappé par la lèpre pour nous montrer qu'il manque quelque chose, même ça, on n'a pas. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'une personne qui disait du Lashon Hara, ça n'existe pas à ce moment-là. Les gens étaient quasi parfaits, c'était des gens, c'était un autre monde, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les gens ne disaient pas du mal sur les autres. Si ça se faisait, c'était involontaire. Parce que sinon, c'était très mal vu. Alors, vous allez me dire, mais si c'est involontaire, pourquoi punir alors? C'est exactement ça, ce n'était pas une punition. C'était lorsqu'on allait commencer à parler involontairement sur quelqu'un, ça montrait qu'à l'intérieur de nous, on n'avait pas encore travaillé ce trait de caractère. Il n'était pas encore parfait. Et donc, Hachem, Dieu venait te dire, tu as encore quelque chose à parfaire. Et donc, je te mettais la lèpre pour que tu réfléchisses. Et ça, on n'a plus. Ça montre que c'est un cadeau, même si c'était bien sûr des moments difficiles.
Et comme on n'a plus le Cohen non plus pour déterminer ce qui est pur ou ce qui est impur, c'est encore moins facile.
Alors ça, c'est un peu différent en fait, parce qu'il faut savoir que le Cohen ne devait pas connaître toutes les lois de la lèpre. Parce que même si c'était un enfant Cohen, si le rabbin qui lui avait appris toutes les lois vient et allait dire oui c'est pur, oui c'est pas pur, on ne l'écoutait pas. Il fallait qu'ils disent au Cohen, même petit qui ne connaît rien, dit qu'il est pur ou dit qu'il n'est pas pur. Il n'y a que le Cohen qui pouvait le dire. Et vous savez pourquoi?
Non.
Parce que lorsqu'une personne vient dire, tu sais quoi, la façon que tu agis est tellement mal que tu vas devoir t'isoler complètement. Il faut vraiment que la personne sente que c'est dit par amour. Parce que sinon, on n'a pas envie d'accepter ça. Le seul qui peut faire ça, c'est celui qui va tout faire pour trouver une solution pour le sauver. Et il n'y a que le Cohen qui a ça dans le sang. Parce que le Cohen vient de Aaron à Cohen, qui était Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il cherchait toujours le bien dans chacun et la paix pour tout le monde.
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure, Rav Mordechai Chalonson, les lois de Nida. C'est vraiment très important dans le judaïsme, ces lois de pureté familiale.
Bien sûr, parce que y a une sorte de virus, en fait, dans le monde qui a été créé. C'est que, imaginez que vous allez manger des pizzas tous les jours. Au bout de même 2-3 semaines, au bout d'un moment, vous n'en voulez plus. Ça vaut pour tout. Quand quelqu'un il recherche le plaisir d'avoir une belle maison, il va vouloir encore plus beau et encore plus beau, la plus belle voiture et encore le plus beau ordinateur, etc. Ce sera toujours une envie et un désir d'avoir plus. Dans le désir qu'on a avec sa femme, c'est la même chose. Si on a et on veut encore, on arrive au problème de la génération d'aujourd'hui. On n'est plus satisfait et on va chercher autre part. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a tout simplement bloqué ce désir pendant un certain moment du mois, que pendant les règles, on n'a pas de contact physique. Ce qui va faire que 14 jours plus tard, plus ou moins, le couple va se retrouver physiquement. Et donc, il y aura un désir qui va être réveillé pendant ces moments-là, qui va pouvoir se retrouver plus tard comme si c'était un remariage. Et c'est un travail extraordinaire parce que ça permet au couple, pendant ce temps-là où il n'y a pas de contact physique, de se retrouver différemment, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir s'offrir, de pouvoir se retrouver, de se recoller sans avoir besoin du physique. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui beaucoup. Et c'est pour cela qu'il est important de faire ces lois, et c'est ce qui a sauvé le peuple juif, de pouvoir rester toujours unis, que ce soit dans le mariage en règle générale, et bien sûr aussi de pouvoir amener des enfants juifs et de continuer à transmettre le judaïsme.
Alors justement, à propos d'enfants juifs, cette paracha, elle évoque le miracle de la naissance, en fait, puisque d'une manière générale, c'est assez extraordinaire qu'un être puisse donner naissance à un autre être. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, il faut être deux. C'est une des seules choses, on va dire, dans la vie sur lesquelles on ne peut pas être une entité tout seul et créer. Nous, on n'est pas comme le Créateur. Si on fait ça tout seul, ça ne marche pas. Il faut qu'on fasse une vraie communauté de deux êtres pour que ça marche. Et cette paracha, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment intéressant là-dessus, sur la façon dont on a une essence divine, même petite, dans cette communauté de donner naissance à un autre être.
Exact. En fait, vous allez peut-être rigoler, mais c'est marqué que pour faire un enfant, il faut être trois. Il y a le père, il y a la mère et il y a Dieu. Parce que le père et la mère, ils vont toujours réussir au pire à créer un corps à partir de leur propre semence, leur propre corps. Mais pour pouvoir amener une âme, on a besoin de Dieu. Et c'est pour cela que, en fin de compte, ce fait de partage ensemble va amener dans le monde un être qui va à réussir à recevoir lui-même, lui aussi, cette force qui en soi est quand même assez extraordinaire, la possibilité sans limite de pouvoir amener des êtres vivants sur Terre. C'est énorme. Alors d'où elle vient? L'homme ne l'a pas reçue, la femme ne l'a pas reçue. C'est Dieu qui la transmet. Mais Dieu ne peut pas venir nous donner des cadeaux tant qu'on n'est pas unis. Et donc c'est ça le message un petit peu. Tu veux réussir à amener de la vie dans le monde, tu veux réussir à amener quelque chose de nouveau, de plus beau, eh bien il faut que tu sois uni, tu sois prêt à partager, à être là pour l'autre. Et seulement dans ces cas-là, Hachem est présent avec toi pour t'aider. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour cela qu'après, on a cette pureté que la femme a, qui est beaucoup plus grande que celui de l'homme, puisqu'elle peut amener la vie, et qui va être un petit peu triste au moment de l'accouchement, parce qu'elle va devoir enlever cette vie qu'elle avait en elle pour lui permettre d'exister. Et c'est ce qu'on appelle couper le cordon, c'est pas évident. Et même à tout âge, quand tu commences à grandir. Et donc c'est très dur. Et c'est pour cela qu'il faut un temps d'adaptation après, que ce soit pour l'homme, pour la femme, pour le couple, de pouvoir se retrouver et de pouvoir repartager les choses encore d'une façon différente. Et ce message de partage est très important.
Merci beaucoup, Rav Mordechai Chalençon. Et non seulement aujourd'hui, on vous souhaite Shabbat Shalom, mais en plus Chodesh Tov, puisque c'est Rosh Chodesh. Et à très vite, bien entendu.
Merci, Shabbat Shalom et Chodesh Tov, en bonne santé, Bezrat Hashem.
Amen.